Artefakt. Et Artefakt, c'est tous les mercredis avec Julie.
Bonjour, bonjour à tous. Bon, alors la semaine dernière, on a parlé d'un tableau tout mignon, tout plein d'amour, mais aujourd'hui, ce sera tout le contraire. Et oui, attention, cela faisait longtemps que je voulais parler de cette peinture, mais je me disais quand même qu'elle était trop horrible pour la radio. En période d'Halloween, je pense que ça passe. Je vais pas faire durer le suspense trop longtemps, on va s'intéresser aujourd'hui à Saturne dévorant l'un de ses fils, peint par Francisco de Goya. Ceux qui la connaissent comprennent maintenant pourquoi il est délicat d'en parler. Et pour les autres, je vais vous faire une petite description. C'est simple, le titre de l'œuvre correspond exactement à ce qu'on y voit. Goya a peint un titan nu, les yeux et la bouche grands ouverts. Du sang dégouline et ce rouge ressort sur le fond sombre du tableau. En effet, le géant tient entre ses immenses mains un cadavre humain, du moins ce qu'il en reste. Un buste nu sans tête se faisant dévorer le bras. Avant de commencer n'importe quelle analyse, il est primordial de savoir qui est Saturne. Autour de la table, vous savez peut-être...
C'était une console de Sega.
Non, c'est l'équivalent de Zeus dans la mythologie romaine, c'est ça?
C'est pas exactement Zeus, mais t'y es presque. Oui. De toute façon, j'ai la réponse, je vais vous la dire tout de suite. Saturne est la version romaine du titan Cronos. Si vous vous souvenez pas de son histoire, on va faire un petit rappel. Cronos est le fils d'Uranos et de Gaïa. Sa mère Gaïa subit une malédiction. Elle est reliée éternellement à Uranos. Pour la sauver, Cronos coupe les parties génitales d'Uranos, son père. Une fois celui-ci détrôné, il règne alors sur le monde avec sa sœur et épouse, Rhea. Cependant, leur magnifique histoire incestueuse ne va pas continuer longtemps. Car catastrophe, Cronos prend connaissance d'une prophétie. Il sera lui aussi détrôné par l'un de ses enfants. Pour que cela ne se réalise pas, Cronos décide de dévorer sa progéniture pour les empêcher de prendre son trône. Ainsi, à chaque fois que Rhea met au monde un enfant, la pauvre femme est contrainte de donner à son époux qui l'avale instantanément. On retrouve ici la représentation du tableau. Cronos avale tour à tour Hestia, Déméter, Hadès et Héra. La jeune femme et la jeune mère souffrent beaucoup de voir ses enfants ainsi dévorés et décident donc de s'enfuir. Et oui, elle va mettre au monde son dernier fils, Zeus, en sécurité. Pour que l'enfant reste caché, Rhea retourne tout de même auprès de Cronos et lui donne, à la place du nouveau-né, une lourde pierre dans un linge. Cronos l'engloutit, comme il l'a fait pour tous ses enfants. Zeus grandit, et décide de défier son père pour sauver ses frères et sœurs. Pour cela, il fait boire un vomitif puissant à Cronos qui permet de libérer les dieux. Zeus, alors accompagné de sa fratrie, débute une guerre contre Cronos et les autres titans. Le dieu de la foudre est victorieux. Il prend donc le pouvoir et s'établit avec les siens sur le mont Olympe. Quant aux titans, ils sont punis en étant enfermés dans les enfers. Donc t'avais un peu raison, c'est l'histoire de Zeus. Donc, on revient à notre peinture. C'est un beau matin de l'année 1821, dans sa demeure en Espagne, que Francisco Goya, déjà très vieux parce qu'il mourra 6 ans plus tard, illustre ce tragique épisode de la mythologie gréco-romaine. Et dans cette œuvre, Goya décida de représenter le moment le plus tragique du mythe, ce moment où Cronos dévore ses enfants vivants, et rend ainsi la peinture aussi obscure que l'histoire. Il nous présente le titan comme un véritable monstre. Pour cela, il possède un corps difforme, une bouche béante, surdimensionnée. Cette scène d'horreur est accentuée par l'expression du visage de Saturne. Son regard met réellement mal à l'aise. Ses yeux exorbités et remplis de frayeur nous traduisent bien la peur du père, mais aussi la conviction de faire ce qu'il doit faire. L'enfant, représenté dans une taille bien inférieure à celle du titan, rend la scène encore plus repoussante. Cette figure, se détachant d'un fond noir non identifiable, est tout simplement terrifiante. L'image de Saturne se dessine dans l'obscurité, seule source de lumière. En fait, le tableau est une représentation d'un psychopathe frénétique, pris dans l'obscurité, incapable de contrôler son comportement meurtrier. La nudité bestiale de Saturne, ses cheveux et sa barbe décoiffés, son regard et ses mouvements agressifs indiquent un état de folie hystérique. Il a déjà déchiré et mangé la tête de son enfant, mais il continue son festin, car il est sur le point de prendre une autre morsure. Il saisit d'ailleurs tellement fort l'enfant mort que ses doigts en deviennent blancs. Il semble en plus qu'à l'origine, Saturne avait été représenté avec également un pénis en érection. Mais si ce fut réellement le cas, cet élément a été effacé en raison de la détérioration de la fresque. En plus, je dois le redire dans la chronique. Donc, vous avez compris, de la fresque, ou bien qu'intentionnellement, cette partie de la toile ait été repeinte avant que le tableau puisse être exposé hors de la maisonnette. Et je comprends qu'on ne veuille pas voir cela dans un salon. Quoique, un être dévorant un autre n'est pas la déco la plus fun non plus. En tout cas, il apparaît clairement que la région autour de l'Aisne est floue. Et surtout, c'est cette férocité cannibale avec laquelle Saturne mange son enfant qui la rend aujourd'hui horriblement unique et célèbre. D'ailleurs, je place l'info ici, mais Goya n'avait pas donné de titre précis à cette œuvre. C'est pour ça qu'il est si descriptif. Saturne dévorant un de ses fils a été nommé post-mortem. Dans la maison du sourd, nommé ainsi en référence à l'ancien propriétaire, mais qui peut d'ailleurs correspondre à Goya, car il a perdu peu à peu l'audition. Enfin bref, c'est dans cette maison du sourd que Goya peint une série de 14 fresques au thème très sombre. Cette série est nommée Les peintures noires et a été réalisée entre 1819 et 1823, réalisée directement sur les murs de sa maison. On y retrouve le mythe de Saturne dévorant ses enfants, avec aussi les sabbats de sorcières, mais également des personnages issus de l'imaginaire du peintre. Cette collection est constituée d'images fantastiques représentant la cruauté bestiale. Ces œuvres ont en effet la particularité de toutes posséder des couleurs sombres. Les figures sont imprécises, brumeuses, et la peinture est souvent étalée au couteau. En les regardant, on ressent une grande tristesse, de la solitude et une forme d'angoisse. Cela témoigne de l'état d'esprit du peintre à ce moment de sa vie. Aucune de ses œuvres n'a donc été conçue pour la consommation publique. Elle contrastait d'ailleurs toutes radicalement avec sa production officielle de portraits d'art et de peintures religieuses pour la noblesse et la cour royale espagnole. De plus, certains historiens de l'art voient un lien entre ses œuvres et la situation politique de l'Espagne en ce début des années 1820. En effet, petit rappel historique, l'Espagne est alors en pleine crise suite aux invasions françaises guidées par Napoléon. La monarchie des Bourbons est alors remise sur le trône et s'ensuivit révolte sur révolte. Cet état d'instabilité a également pu être le moteur de l'inspiration de l'artiste, comme il l'a fait pour son chef-d'œuvre, le Tres de Mayo. Effectivement, on peut se demander pourquoi notre artiste réalise une série si troublante. Ce n'est effectivement pas dans ses habitudes. Il faut noter que Goya n'avait pas destiné le tableau à être exposé, comme je vous l'ai dit, il souhaitait simplement décorer sa maison. C'est pourquoi il s'est éloigné des codes de la peinture de l'époque en utilisant des couleurs sombres et des déformations. Alors, on peut aussi se demander qu'est-ce que représente Saturne ? Les spécialistes ont trois hypothèses. La première serait de représenter Napoléon et la cruauté de ses troupes envers les républicains. Également, à cette période, l'Église catholique et l'Inquisition pourchassent les autres croyances. Saturne serait alors l'allégorie de l'Église et de sa censure. De plus, représenter une mythologie étrangère peut être perçu comme une insoumission. Et dernièrement, Saturne pourrait tout simplement représenter le mal dans le monde. Comme je viens de le dire, l'artiste n'était pas au meilleur de son moral. L'art a pu être pour lui un réel échappatoire. Ainsi, si on se base sur la vie de l'artiste, le mythe a pu également rappeler à Goya la relation qu'il entretenait avec son propre fils, Xavier. En effet, il était le seul de ses 6 enfants à avoir survécu jusqu'à l'âge adulte, peut-être de la culpabilité ou du deuil, et retransmis dans cette peinture. S'il est sans doute difficile de donner un sens certain à cette œuvre, son inspiration paraît évidente. Goya a probablement été influencé par un tableau de Pierre-Paul Rubens de 1636 portant le même nom. La toile de Rubens, qui se trouve être également au musée du Prado, est bien plus classique. Effectivement, la peinture est claire avec un traitement du mythe plus conventionnel. Saturne est représenté avec moins de férocité que dans l'œuvre de Goya. Toutefois, certains spectateurs ont estimé que la version de Rubens serait plus horrible, notamment à cause de la vision d'un bébé innocent se faisant dévorer par son père, avide de sang. Alors que dans sa version, Goya représente un homme rendu fou par le fait de tuer son propre fils. Pour faire court, dans le tableau de Goya, le corps du fils est celui d'un adolescent, alors que Rubens a peint un bébé sans défense, ce qui a tendance à émouvoir davantage le public. Enfin, ce que je ne vous ai pas encore raconté, c'est comment cette fresque murale s'est retrouvée dans un musée. Vous vous en doutez bien, il y a eu une transposition de l'œuvre sur toile. En effet, même si elles n'ont pas été conçues pour être vues du public, les peintures noires restent des œuvres importantes de la carrière de Goya. Lorsque le peintre fit le choix de s'exiler en France, à Bordeaux d'ailleurs en 1823, il laissa la villa à son petit-fils. Après certains changements de propriétaire, la maison fut acquise par le banquier français Émile d'Erlanger. Si ça se dit comme ça. Étant resté sur les murs de la maison pendant, attention ça va arriver, pendant 70 ans sans protection particulière, les peintures murales s'étaient gravement détériorées. Wouh ! Alors, afin de les préserver, le nouveau propriétaire décida de les transporter sur toile sous la direction du conservateur du musée du Prado, le grand musée de Madrid. Après avoir été présenté à l'exposition universelle de 1878 à Paris, le banquier décida finalement de céder l'œuvre à l'État espagnol. Ensuite, à cause des ravages du temps passé, ainsi qu'à cause des inévitables dommages causés par la délicate opération de transfert de la toile, cela a imposé d'importants travaux de restauration pour les différentes toiles issues des peintures noires, celle de Saturne étant sans doute celle qui a le mieux résisté. Ainsi, vous pouvez encore aujourd'hui retrouver l'œuvre Saturne dévorant l'un de ses fils au musée du Prado à Madrid.